psaume 118 à partir du verset 13. Voilà, je vais. Peut-être que. Est-ce que. Frère, est-ce que tu veux prier pour le message? C'est possible? Oui, toi? Si tu te sens à l'aise, hein? Si tu me dis non, il n'y a pas de souci. Comme tu veux. Non, pas. Ok, je vais prier alors. Seigneur, nous te remercions de ta parole qui a toujours quelque chose de lumineux à nous transmettre. Ça peut être parfois une correction, ça peut être une consolation, une exhortation, un encouragement, un enseignement, nous révéler qui tu es et ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous sommes à ta disposition, pas simplement pour un moment de culte, pour te servir dans notre vie et par la foi en Jésus-Christ. Alors nous écoutons ce que tu peux nous dire à travers ce psaume-là, qui est une parole écrite avec de l'encre, mais qui est une parole vivante aussi parce que c'est toi qui l'as écrite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 18, à partir du verset 13. Tu m'avais rudement poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique. Il a été mon libérateur. Une voix de chant de triomphe retentit dans les temples des justes. La droite de l'Éternel fait vertu. La droite de l'Éternel est haute élevée. La droite de l'Éternel fait vertu. Je ne mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je célébrerai l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te célébrerai, car tu m'as exaucé et tu as été mon libérateur. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ceci a été fait par l'Éternel et c'est une merveille devant nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et nous réjouissons en elle. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous a éclairés, liés avec des cordes la bête du sacrifice et l'amenés jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te célébrerai mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Voilà, les psaumes, comme notre frère nous le disait tout à l'heure, on peut être dans un moment comme David et comme d'autres qui ont écrit ces psaumes, dans un moment d'épreuve. On peut être en plein milieu de l'épreuve, on peut être juste au sortir de l'épreuve, mais c'est un schéma qu'on retrouve souvent dans les psaumes. Et ça se termine souvent, ça commence et ça se termine par « célébrons, chantons et louons, réjouissons-nous ». Il y a toujours une note positive. Je ne sais pas, en psychologie, on dirait peut-être que David, il était un peu, pas dépressif, mais enfin, il avait des états d'âme quand même. Il y a des hauts et des bas dans sa vie. Ben oui, mais c'était sa vie. Enfin, ce n'était pas sa personnalité. Peut-être que quand il était juste berger, tout allait bien, il chantait tout le temps. Mais après, la charge qu'il portait en tant que roi, les guerres continuelles, ses fils qui le trahissent, ses fidèles généraux qui l'abandonnent et qui le trahissent aussi. Enfin, il y a de la matière quand même à avoir ces états d'âme. Vous voyez, on n'en fait pas pour autant. Je ne sais pas comment dire aujourd'hui en psychologie, ça s'appellerait mélancolique. Je ne sais pas s'il était mélancolique, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est un schéma qu'on retrouve dans les psaumes et pas seulement par lui. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est ce qu'on va voir au verset 22, c'est que c'est quand même un psaume qui a une particularité. Il n'y a pas que, bon, c'est compliqué, c'est difficile, mais à la fin, tout va bien comme un film américain, on va pouvoir se réjouir, on a gagné. C'est bien plus que ça, ce psaume. Pourquoi ? C'est ce verset 22 qui nous dirige nos regards vers quelque chose de particulier. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce verset ? Oui, je crois qu'il y est au moins, il est repris 4 ou 5 fois dans le Nouveau Testament. Il est repris et Pierre le reprend, on va venir aux évangiles après, mais Pierre le reprend comme quelque chose de fondamental quand il parle à des juifs. Pierre, alors 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 8. Approchez-vous ou en vous approchant de lui qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. » Donc c'est Jésus-Christ dont il est question, hein, bien sûr. « Vous, verset 5, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle. » Vous voyez, on revient encore à l'idée du tabernacle ou du temple. Là, c'est des pierres. « Mais c'est vous, les pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Donc là, dans le contexte, Pierre parle de ceux qui, du temps de la première venue en chair de Jésus, n'ont pas cru en lui, les incrédules. Et ça, on peut le dire parce que c'est en reprenant des versets dans les évangiles. On prend juste un exemple sur les quatre possibles, mais Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles ? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ceci a été fait par les Seigneurs et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. » Donc, Jésus lui-même, parlant à ses détracteurs, à ses opposants, reprend ce verset. Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ? » Ben oui, ils l'avaient lu, mais ils ne faisaient pas le rapprochement. J'aimerais que nous, aujourd'hui, on fasse ce rapprochement, non seulement en se disant, « Oh, les Juifs de l'époque, ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas vu, donc, oh là là, c'est eux les incrédules. » On ne peut pas dire que les Juifs ont été incrédules. L'apôtre Paul était juif, Pierre, les 12 apôtres, les 3000 premiers convertis ont cru. Donc, on ne peut pas dire les Juifs. C'est comme si on disait les Français, ils sont tous comme ça, ou les Arméniens, ils sont tous comme ça. Vous voyez, on ne peut pas le dire, c'est faux. Des Juifs n'ont pas cru. Des Juifs ont été incrédules. En tant que nation, ils ne se sont pas tous convertis, mais des Juifs ont cru. Et des Juifs ont participé non seulement à la foi, mais à la propagation de l'Évangile, heureusement. Et c'est pour ça que Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Il n'a pas dit, oh, les Juifs, ils sont parfaits, ils ont inventé le salut. Non, le salut vient des Juifs parce qu'ils ont été le moyen par lequel l'humanité entière a reçu. On ne peut pas le nier. Nos Écritures sont des écrits juifs, qu'on le veuille ou pas. Les apôtres étaient juifs. Ça se passait à Jérusalem, à l'époque, une nation sous, effectivement, la domination romaine, mais ils étaient juifs. Voilà. Bon, juste en passant, je le fais remarquer. Pourquoi je veux dire ça ? Parce que des fois, on va regarder les juifs de haut et dire, « Ah, mais nous, les chrétiens, nous, c'est pas pareil. Nous, nous avons cru. Nous, nous sommes ceux qui sont destinés. Et nous, c'est... » Est-ce que ce verset peut aussi s'appliquer à des chrétiens ou à ceux qui se disent chrétiens parfois, qui se disent chrétiens et qui sont pourtant incrédules ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui se dit chrétien pourrait être incrédule ? Mais quelqu'un qui se dirait chrétien, mais qui n'a pas une vie de chrétien. Quelqu'un qui se dirait chrétien, mais qui ne rend jamais gloire à Christ, mais à une grande statue érigée avec un petit bébé dans les bras. D'ailleurs, si vous pensez que ça n'est que historique, ils viennent de construire une statue, je ne sais plus à quel endroit en France, d'une trentaine de mètres, une trentaine de mètres de haut. Oui, vous avez qu'à taper statue construite de Marie. Vous savez, il y a des endroits en France où il y a des statues très très hautes, c'est les hauts lieux, mais ça continue. Donc, est-ce qu'on peut se dire chrétien alors qu'en réalité, on vénère Marie ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détourner de la vraie foi, détourner de ce qu'on a vu tout à l'heure. Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui ont été sanctifiés. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de ça ? On l'a vu tout à l'heure, de revenir à la loi. Justement, de judaïser. Dans certains milieux chrétiens, c'est très à la mode, c'est mystique, il faut mettre chaque chose à sa place. Oui, les Écritures, c'est des écrits juifs, oui, les... mais en dehors de ça, le Seigneur jamais ne nous demande de revenir à la loi. Jamais ne nous demande, ne nous oblige ni la circoncision, ni les fêtes de l'Éternel, ni le temple à Jérusalem, ni d'habiter en Israël, enfin, ni d'avoir une kippa, ni de mettre un châle de prière, ni de manger kasher. Jamais. Jamais. C'est un retour. Alors regardez, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qui peut détourner nos regards de ce qui est vraiment la foi chrétienne, de ce qui est vraiment le message chrétien, ce qui est vraiment notre identité et notre vie. Donc, Galates, chapitre 3, on a plusieurs avertissements dans plusieurs livres, mais au moins on prend déjà Galates, parce que c'est une évidence, verset 1. « Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, d'autres traductions disent hypnotisé, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint comme crucifié, en vous, je veux savoir de vous cette seule chose, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la loi ?» Des églises chrétiennes qui reviennent à la loi, bon, le milieu adventiste, le Shabbat, il faut que ce soit le vendredi soir, le culte, parce que dans la Bible, c'est le Shabbat, de refaire les fêtes de l'Éternel, pourquoi pas la circoncision, enfin, c'est de judaïser, c'est bien un retour à la loi. De revenir aussi au principe de la loi, parce que certains vont dire, non, nous, ce n'est pas ça. Mais de dire, on est sauvé par la foi, comme on l'a vu tout à l'heure, par la grâce de Dieu, ça n'est que par la grâce. Il y a eu la réforme, les 5 points, c'est sola fide, enfin, seulement par la foi, seulement par la grâce. Et aujourd'hui, on entend, dans certains milieux, dits chrétiens, oui, c'est la foi, oui, c'est la grâce, mais aussi nos œuvres. C'est-à-dire, la grâce... La foi, on commençait le travail, mais c'est ce que nous allons faire, nous, maintenant, qui termine le travail. Vous l'avez jamais entendu, ça? Quand vous dites, oh, on est sauvé une fois pour toutes, gloire à Dieu. Oui, mais attention, si on persévère bien comme il faut jusqu'à la fin. Oui, mais attention, si... Alors, je ne sais pas, moi, mais franchement, si un jour, ça m'est arrivé une fois à Paris, quelqu'un m'a alpagué, comme on dit, dans la rue, en me disant, oui... J'ai quelque chose à te donner, c'est gratuit. C'est des... Je reviens. Alors, il faisait semblant de parler italien. Comme je parlais un peu italien, je lui ai répondu un peu. Alors, après, il a parlé français et italien. Et il m'amène à sa voiture et il me montre des vestes en cuir. Il me dit, ouais, je suis allé. En fait, je suis allé à un salon où je vends des vêtements en cuir. Et puis, maintenant, je vais reprendre l'avion et ça coûterait trop cher de payer les taxes. Je préfère m'en débarrasser maintenant. Je les donne à des gens. Et il me montre un catalogue, et il me montre des sacs avec dépassant des petits morceaux de cuir. Bon. Moi, je lui dis, ben, si c'est gratuit, je peux en prendre, hein, je peux en prendre une, hein, par exemple. Oui, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment gratuit. J'ai dit, ben, alors je prends un blouson, hein, oui, un blouson en cuir, ça peut toujours servir. Hein, oui, c'est gratuit, tu peux le prendre. Il dit juste, juste, moi je suis marié. J'ai une femme, allez, je veux lui faire plaisir, j'aimerais bien lui faire un petit cadeau. Tu peux aller trouver un parfum là, dans une boutique, un truc pas trop cher, mais juste un parfum. Enfin, j'ai dit non. J'ai dit non, si tu me dis c'est gratuit, bah écoute, voilà, je vais prendre la veste parce que tu m'as dit c'est gratuit. Gratuit pour moi, je sais ce que ça veut dire. Alors là, il recommence à parler en italien. J'ai dit non, je paye, je donnerai rien. Tu m'as dit c'est gratuit, tu m'en as parlé pendant un quart d'heure. Je veux ma veste gratuite. Alors, il ferme le capot, il est parti. Bon. Qu'est-ce que ça serait un salut? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ou après avoir accepté le contrat... Oui, mais rappelez-vous quand même, il faut que vous soyez là tous les dimanches, il faut que vous donniez la dîme, il faut que vous évangélisiez, il faut que... Et patati et patata. Je dirais, peut-être qu'il faut le faire, mais je ne paierai jamais mon salut avec ma fidélité ou mon service ou quoi que ce soit. Jamais. J'ai reçu un cadeau. Et si c'est un cadeau, je ne discuterai pas avec Dieu. Si Dieu m'a dit c'est gratuit, il n'est pas comme les hommes qui peuvent mentir, nous tromper. Et quand on a signé le contrat, on voit la clause. Ah, tu n'avais pas vu la petite clause en bas? Il n'y a pas de clause. Pour le salut, on est sauvé une fois pour toutes. Alors, bien sûr, après, on a une vie qui doit être reconnaissant à Dieu. On doit vivre selon ses principes, ne pas faire blasphémer sa parole. On est d'accord. Mais il faut que ça soit clair dans notre pensée. On ne revient pas aux œuvres pour le salut. C'est l'Épître aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on est sauvés, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, est-ce qu'on comprend ça? C'est le don de Dieu. Et ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comment on peut être encore plus catégorique par une affirmation positive, catégorique, une affirmation négative pour dire ce que ça n'est pas par les œuvres, ça n'est que parce que c'est un don de Dieu. Comment on peut être plus catégorique et plus clair? C'est comme des ensembles en mathématiques, quoi. Il y a deux patates, ça s'appelait. Il y a ça dedans, il y a ça dedans. C'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a une suite à ce verset. Ça n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. On est d'accord. Et l'épître de Jacques qui nous dit « Montre-moi ta foi par tes œuvres ». Ben oui, si on est sauvé, on reçoit l'Esprit de Dieu nous change, et évidemment que notre cœur est disposé après à servir, à aimer, à donner, à évangéliser, évidemment. Mais c'est comme une preuve. Dieu nous a sauvés pour, mais pas par. Ça change tout, être sauvé pour et par, non? On a des langues, quelles que soient qu'on parle en anglais, en français, en n'importe quelle langue, pour et par, c'est pas la même chose. Donc oui, Dieu nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Il veut que nous le servions. Il s'est fait un peuple purifié et zélé pour de bonnes œuvres. On est d'accord, mais jamais sauvé par. Donc voilà, on peut s'éloigner du message chrétien en rajoutant dans l'équation sauvé par la grâce, la foi, mais aussi nos œuvres. Ne mettez pas un... J'ai fait une fois, excuse-moi, j'ai des illustrations qui me viennent, mais j'étais hébergé chez des gens gratuitement qui, par bienveillance, ne me faisaient rien payer. Et il y avait une personne qui a cuisiné une soupe au potiron délicieuse dont elle était très fière et elle était impatiente qu'on la mange le soir. Et moi, j'ai des petites idées. Et à cette époque, je n'étais pas chrétien. J'ai vu qu'il y avait une bouteille de... Allez savoir pourquoi, une bouteille de whisky. Je me suis dit, tiens, le whisky, ça serait bon dans la soupe au potiron. J'ai mis du whisky dans la soupe au potiron. Est-ce qu'elle était ravie, à votre avis? Elle était plutôt fâchée, hein, et elle avait plutôt raison. De quoi je me mêle? Fais ta soupe à toi, Didier. Mais on ne rajoute rien au salut où Christ a dit tout est accompli. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que nous voudrions rajouter à ça? Oh, j'ai payé ma dîme. Hein. Je suis là. C'est bien. Mais ça ne change rien à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a lu dans Galates 3, vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint? C'est littéralement, dans le grec, un mot qui veut dire peinture. Dieu nous a fait un tableau magnifique, c'est le tableau de la croix de Jésus-Christ qui paie pour nos péchés, qui souffre pour nous. Et on y a cru, mais je ne vais jamais aller au Louvre avec mon pinceau et dire « Oh là, j'aurais préféré qu'elle soit blonde, Mona Lisa, là, je rajoute ça. » Voilà, donc tout ça pour dire, même les chrétiens, prétextant être chrétien, déclarant être chrétien, ne sont peut-être pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas cru que c'est par Christ seul qu'on est sauvé. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi », si vous me dites autre chose que ça, ça et Ellen White, si vous connaissez, c'est une dame qui, pour les adventistes, a écrit des livres et ça fait partie de leur doctrine. Les adventistes ont la Bible et les écrits d'Ellen White. Les catholiques ont la Bible et la liturgie et la tradition des pères, tous les... À la limite, enlever tous les « et ». Et l'action biblique, et les baptistes, et... Enlever tous ces « et ». On est sauvé par la foi, par la grâce seule, par Jésus-Christ. Et si dans cette église, vous entendez ce message clair, et vous le croyez, c'est ça qui compte. C'est pour ça que Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée, 1 Corinthiens 2.2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que quoi ? Que Jésus-Christ, et attention, et Jésus-Christ crucifié. » Parce qu'il y en a qui parlent de Jésus-Christ redresseur de tort, qui parlent de Jésus-Christ humaniste, qui parlent de Jésus-Christ communiste, révolutionnaire, de Jésus-Christ grand initié, de Jésus-Christ le plus grand prophète qui existe, mais pas Jésus-Christ crucifié. Vous avez déjà entendu ça, non ? L'islam qui dit que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Il y a eu une substitution. Alors des fois, on est content parce qu'on se dit « Oh, mais même dans l'islam, il s'approche quand même, puisque oui, ils reconnaissent Jésus-Christ est le premier et il va revenir. » Mais ce Jésus-Christ qui n'est pas mort à la croix, c'est pas le Jésus-Christ qui me sauve. Il ne peut pas me sauver puisque je suis encore dans mes péchés. C'est l'Évangile qui est en jeu. C'est toute la question. Et les témoins de Jéhovah, des fois, on se dit « Oh, mais on n'est pas loin, hein, ils connaissent bien la Bible. » Mais à mille lieues. Je les ai fréquentés, je connais leur doctrine. Oui. Voilà, on connaît. Ah, Jésus-Christ, ah non, mais il n'a pas les cheveux longs. Jésus-Christ, il n'était pas pauvre, il était riche, il avait de beaux habits. Quelle importance. Et puis, la croix, le mot stauros, c'est pas ça, ça peut être comme ça, ça peut être un bois, puisque stauros, ça veut dire pieux. Bon, alors, mais et alors ? Que le bois soit comme ça, comme ça, comme ça, Jésus-Christ a été pendu au bois et il a porté nos péchés à la croix, et ça c'est écrit. Donc, il y a toujours des petites choses comme ça, mais non, ils n'ont pas cru que c'est Jésus-Christ le Sauveur. Ils disent que c'est Jéhovah. Alors, quand dans le Nouveau Testament il est dit qu'il n'y a pas d'autre nom que Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés, oui, mais il y a écrit c'est par Jéhovah seul qu'on est sauvés. Et alors, Jéhovah et Jéhovah et Jéhovah. Chrétien, pas chrétien. Au début, ils s'appelaient chrétiens, puis à la longue, ils ont fini par dire non, on est autre chose, les témoins de Jéhovah. Ben oui, vous n'êtes plus des témoins de Jésus-Christ. Ils ont changé dans leur histoire. Oui, bien sûr. En fumée, c'est ça. Mais la réalité, c'est qu'on est. Vous écoutez, on est chez eux. Oui, oui, on est sauvés par la faveur imméritée. C'est pas le mot grâce, c'est faveur imméritée. Ça veut dire la même chose. D'accord. Alors, immérité, ça veut dire qu'on est sauvé sans qu'on le mérite jamais. Ça veut dire que ce n'est pas par les mêmes œuvres. Oui, mais il y a aussi écrit par les œuvres. Et on est toujours au même point dans toutes les religions dites chrétiennes, mais qui ne le sont plus, qui se sont éloignées. Alors, là, je fais une très longue introduction, mais on revient au psaume 118 et on va survoler. Parce que ce psaume, en fait, c'est un psaume messianique. Il nous parle de Jésus-Christ, la pierre angulaire. On en est tous là, c'est Jésus-Christ. Et notre vie, elle est sur un rocher solide si on est en Jésus-Christ. Et regardez, après avoir vu tout ce qu'on avait vu, le temps d'épreuve, tu m'avais rudement poussé, bon, on a déjà lu ça, hein, c'est le temps d'épreuve. Mais après, à partir du verset 19, « Ouvrez-moi les portes de justice, j'y entrerai, je célébrerai l'Éternel. » C'est ici la porte de l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà lu ça, quelque part, la porte ? Jésus-Christ a dit « Je suis la porte ». Les justes y entreront. On pourrait dire « Mais moi, je ne suis pas juste ». Mais oui, justement, tu es juste parce que Jésus-Christ t'a justifié. Passant par cette porte, les justes y rentrent. Vous ne l'étiez pas avant d'avoir passé la porte, mais c'est extraordinaire. Mais dès que vous l'avez passé, vous l'êtes. Vous imaginez une porte comme ça. Vous êtes sale, et là, vous passez cette porte-là. Dès que vous avez passé la porte, vous êtes propre. Mais j'y vais. Hein ? On y va. C'est ici la porte. Ceux qui entrent par là sont les justes. Ils le sont parce qu'ils sont passés par cette porte. Ensuite, il y a verset 21. Je te célébrerai car tu m'as exaucé, tu as été mon libérateur. Est-ce que Jésus-Christ est votre libérateur ? Il faut savoir ce que ça veut dire. Ah oui, il est mon libérateur. D'accord. Il t'a libéré de quoi ? Ben de Romains 8:1, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, ben il sera affranchi. On est d'accord ? Il le dit, il en a la prétention. Jean 8, 36. C'est le plus rapide des deux qui va le lire. Allez, j'y vais. Luc et Jean, qui c'est qui est le plus rapide ? J'ai gagné. Non, elle a gagné ? Ah, d'accord, alors j'y vais. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Véritablement libre. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui se croient chrétiens et qui disent « Ah, j'ai eu une expérience, il s'est passé ça. » Si le Fils est vraiment notre libérateur, nous sommes réellement libres, réellement, dans le réel. Et des chrétiens qui disent « Oh, mais moi, j'ai des addictions, je n'arrive pas à ça. » Il y a un souci parfois. Alors oui, on peut tomber. Oui, on peut chuter. Oui, on peut... Tout à l'heure, Abraham, il a dérapé deux fois. Mais il a dérapé. Il ne s'est pas installé là-dedans. Ce n'est pas devenu une habitude pour lui. On a le témoignage de deux dérapages. Alors, Romains 8, versets 1 et 2, là, j'y vais. Vous serez réellement libre, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, oui, il n'y a vraiment aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bon, là, c'est plus la peine de lire ce verset-là, hein, parce que ça n'a plus rien à voir. Hein. D'ailleurs, si l'avenir, amenez vos Bibles. C'est bien de garder l'habitude. Un jour, peut-être, il n'y aura plus d'électricité. Il faudra peut-être retrouver le papier. Ça sera bien ce jour-là. Bon, enfin non, peut-être pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Vous voyez, le salut dont on parlait tout à l'heure, c'est pas « oui, mais quand même, il va quand même nous taper un peu sur la tête parce qu'on n'aura pas été des bons chrétiens en tout point. » Alors, il nous réserve quand même une petite partie de... Non, il n'y a aucune condamnation. Pourtant, il est question d'un tribunal, hein, tribunal de Christ, hein, mais pour les récompenses. Mais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en général, j'ai entendu trop souvent dans les églises, on s'arrête là. Tu vois, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tu es tranquille. Mais on s'arrête, le verset n'est pas terminé. Ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, là encore, on revient à l'idée de que si on est un vrai chrétien, un vrai converti, il y aura des fruits. Il y aura une vie changée. On n'aura pas envie, on sera peut-être tenté, mais quand même, la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est que le chrétien, quand il chute, il s'en désole. Le Saint-Esprit est attristé en lui. L'incroyant, quand il vit dans le péché, il s'en glorifie. Il est très fier d'être menteur, tricheur, d'avoir des maîtresses, d'avoir des... Il s'en glorifie. Il dit « Oh, mais de toute façon, tout le monde est comme ça. » Regardez les gens qui conduisent en voiture. Ils ont beau brûler un feu rouge, si vous faites la moindre remarque, c'est eux qui vont vous sauter dessus. Ils ont toujours raison, même pris en tort. Le chrétien, non. Il a cette capacité à se remettre en question et à dire pardon. Voilà, donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui le manifestent par une vie changée. Ne nous trompons pas, il y a des gens qui sont trompés. Ensuite, versets 23 et 24, ceci a été fait par l'Éternel. Ceci a été fait par l'Éternel. D'accord ? Et c'est une merveille devant nos yeux. Ce que je dis là, est-ce que c'est culpabilisant ou c'est plutôt une merveille de vous dire qu'on a un salut parfait, accompli pour toujours, pour nous ? C'est une merveille à nos yeux. De savoir que j'ai rien à y faire, excusez-moi, mais je suis plutôt content de savoir ça. C'est ici, verset 24, la journée que l'Éternel a faite, égayons-nous et nous réjouissons en elle. Voilà. On n'a pas tous les mêmes personnalités, il y en a qui sont naturellement plus joyeux que d'autres, mais quand même, réjouissons-nous, quoi. Faisons un effort, égayons-nous. Comment s'égayer quand on est triste ? Vous avez une solution pour ça ? Pour tous nos amis mélancoliques, et un peu dépressifs ou à tendance plutôt... Moi, je sais que j'ai de l'humour, on me dit, enfin, je peux faire rire mes enfants, humour d'un certain genre. mais je ne suis pas très joyeux naturellement, vous voyez, je ne suis pas très souriant, pas chaleureux et tout ça. Mais au point qu'on pensait que j'étais comme Buster Keaton, pour ceux qui connaissent, celui qui fait rire les autres, mais qui rit jamais lui. Il est toujours le visage comme ça. J'étais plutôt comme ça. Bon, mais je m'en moque, ce que je suis. Voilà, on n'a pas d'excuse. Le Seigneur dit, égayons-nous. Même le plus dépressif peut s'égayer. Si vous vous levez comme certains que je connais très bien, je parle de moi, enfin, excusez-moi, mais si vous vous levez en état dépressif, enfin, vous voyez, dans le blues absolu, peut-être par la fatigue, par la mauvaise nuit, par les soucis, par notre nature, par le monde tel qu'il est, par la température, par... Eh bien, égayons-nous. Comment on fait pour s'égayer ? Ben, on chante, on lit la Bible, on prie. Et le Seigneur nous donne cette vie surnaturelle qui fait qu'on peut s'égayer dans ce monde-là, même si la température continue à augmenter pour cette semaine. Et que c'est pénible. Mais c'est quand même une journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous, réjouissons-nous, nous avons la vie. Nous sommes là, nous sommes libres de nous réunir. Nous pouvons chanter. Le loyer, enfin, tout est payé, vous avez de quoi manger dans le frigo. On a des soucis, on a des fardeaux, on a des inquiétudes. Mais égayons-nous par ce qu'a fait le Seigneur. Voilà, réjouissons-nous en elle. Verset 25. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. C'est aussi une prière. On aimerait voir des âmes sauvées. On aimerait voir l'Église prospérer. On aimerait voir les Églises prospérer. Ne croyons pas que l'Église du Rouet est un cas unique en France. Les Églises françaises, de manière générale, qui restent fidèles à l'Évangile et aux... Il n'y en a pas beaucoup qui multiplient tous les ans. Hein. Donc, c'est une prière, ô Éternel, puisque tu es qui tu es, puisque ton salut est parfait, donne le salut, sauve des âmes. On a fait des efforts, on a fait une expo, on peut faire encore des efforts, on fait des distributions, mais c'est Dieu qui donne le salut. Il nous demande de faire ça, mais c'est lui qui donne le salut. Les âmes sauvées, nous, on ne peut rien faire pour ça. On peut prêcher l'Évangile, on peut témoigner de l'Évangile, on peut chanter l'Évangile, on peut faire des campagnes. Si ce n'est pas Dieu qui donne le salut... On est un peu comme la mère de Samuel. On vient au temple et chaque année et on pleure. Et... Mais un jour, l'enfant est né. Alors s'il faut continuer jusqu'au bout, continuons jusqu'au bout à demander à Dieu qui donne le salut, la prospérité. Et verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Là encore, ça nous dit quelque chose. C'est une phrase que Jésus a dite aussi le concernant. Il faut dire béni, soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Est-ce que nous bénissons Jésus-Christ qui est venu de l'Éternel ? Est-ce que nous, nous bénissons notre rocher, notre pierre angulaire ? Est-ce que nous bâtissons notre vie sur lui ? Est-ce que nous bénissons le Seigneur pour celui qui l'a envoyé, Christ qui est entré dans le monde ? Oui. Bénissons le Seigneur. Si on n'a pas de sujet à côté de ça, ben, rappelons-nous, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Verset 27, l'Éternel est Dieu, il nous a éclairés, liés avec des cordes de la bête du sacrifice. Là encore, le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Et l'a mené jusqu'aux cornes de l'autel. Pourquoi les cornes ? Pourquoi dire, amenez-le à l'autel ? Voilà, le sacrifice, c'est Jésus-Christ, et il va être immolé à l'autel. Les cornes ? Ça représente, regardez les animaux. À quoi ça leur sert les cornes ? À décorer ? Quand il faut taper, les béliers, regardez les deux béliers qui se mettent des coups de tête. Les cornes, c'est la puissance, effectivement, c'est la force. Le sacrifice à l'autel, c'est de croire que Jésus-Christ est notre force. Son sacrifice est notre force. Ce n'est pas de dire, on est en train... par Jésus-Christ, par la croix, mais après, c'est... Non, c'est toujours à la croix. Notre force, la puissance chrétienne, c'est la croix. Le message chrétien, ce n'est pas de rajouter, il nous bénit, il nous prospérons, nous avons de l'argent, il nous guérit. c'est la croix. C'est ça la force de l'Église. C'est ça qui a fait la propagation de l'Évangile. Il n'y a rien à rajouter à ça. Tu es mon Dieu, je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. Loue l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Alors, on va chanter « Quel ami fidèle et tendre ».